Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Pas encore certain du titre de cet épisode, mais je sais où il va à peu près, et ça va être autour du fait de prendre soin de soi. En fait, j'ai des titres un petit peu plus putaclic qui me restent en tête, mais ça m'inviterait à réduire le sujet. Et en ce moment, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais peut-être que je vais revenir à un format passé d'épisodes qui passent plusieurs sujets, parce que j'ai plusieurs choses à vous dire, mais qui prennent moins de temps. Donc j'ai du mal à recentrer par thématique, peut-être que c'est la fin de cet arc, on verra. Et y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers jours, et je me suis enfin dit, ah ça y est, c'est quelque chose de fait, de nouveau, et en fait, ça commençait à faire quelque temps, pardon, que j'avais pas un sujet qui arrivait pendant la semaine de me dire ah tiens, je vais parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui marque ma semaine. C'est un peu le sentiment que j'avais l'année dernière en saison 1. Et là, en fait, c'est revenu. Donc les autres temps, c'était j'oubliais un petit peu que j'avais un podcast le restant de la semaine, et le dernier jour ou une heure avant, je me disais qu'est-ce que je vais dire cette semaine. Et là, je sors d'une semaine de vacances, donc je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais dire sur ce podcast? Je ne vais pas parler de mes vacances, c'est pas encore un podcast vlog où je raconte ma vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et en fait, y a quelque chose qui m'a frappé, où je me suis dit, ok, super intéressant, c'est venu pendant les vacances, mais ça peut apporter pour la suite, et ça marque aussi une étape. Donc c'est un épisode que je transmets avec fierté, qui est associé au fait que je crois que ça y est, je commence à savoir prendre soin de moi. Et au-delà de vous le dire et d'arrêter le podcast là, je vais vous transmettre ce qui fonctionne bien là ces derniers temps, et en quoi je pense avoir trouvé pas mal de solutions à mon stress et à mon besoin de contrôle. Donc si ça vous parle, peut-être que vous allez pouvoir en retirer deux, trois trucs sympas. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que félicitations à nous, parce qu'on est une équipe. La saison 4 de Bip Bip est la saison la plus grande jamais faite depuis un an. Ce que je vois comme une victoire, parce que ça veut dire que je suis satisfait de comment sont les épisodes. Et ça veut dire que je suis dans une dynamique où j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de pause, où j'ai des choses à dire. Voilà. À la limite, j'aimerais peut-être changer l'intro parce qu'elle me saoule, et puis ça me permettrait de faire un peu de musique. Mais voilà, je trouve ça comme quelque chose de positif, surtout que je transmets du positif et que je suis dans un élan positif. Donc si j'ai pas l'impression que ma vie change énormément et qu'elle change assez pour mériter une nouvelle saison, et que cette saison est positive, ça veut dire que ça va bien depuis au moins 17 épisodes. Alors, je remercie les personnes qui m'aident dans ce projet. Évidemment vous, j'avoue que bon, je le fais un peu comme une fin de saison, mais c'est pas du tout une fin de saison, justement, parce que j'ai le sentiment que qu'on va continuer, en tout cas tant que j'ai pas de changement qui marque vraiment une évolution ou qui marque quelque chose dans ma vie, il y aura pas de nouvelle saison. Mais donc je vous remercie vous aussi, et j'avoue être, donc les auditeurs, hein, j'avoue être quand même déçu du peu de nombre d'auditeurs que j'ai, même si je vois que, et je pense que j'ai peu d'auditeurs, mais qui sont fidèles, hein, parce que je vous vois. Il faut savoir que je peux voir même les localisations des téléchargements, et que je peux voir les heures de téléchargement, et que je vois qu'il y a une petite poignée qui est là tous les lundis. Donc je vous en remercie. J'ai quand même envie, et je le partage et je l'avoue, hein, de toute façon vous le savez, et puis ce serait hypocrite de ne pas l'assumer. Bon, j'aimerais bien être écouté un petit peu plus, mais ça viendra. Je suis heureux de tenir la régularité, et merci à ceux qui me font des retours, ça fait toujours plaisir. Et les retours que j'ai me motivent à continuer, même s'ils sont rares, mais ça les rend d'autant plus précieux. Donc voilà, on continue pour cette saison avec, je crois normalement que c'est l'épisode qui marque le fait que c'est la saison la plus grande de Bip Bip. Donc voilà, merci, merci à vous et je vais pouvoir enchaîner sur le petit sujet du jour qui est que bah ça y est, je crois que j'ai compris deux trois trucs par rapport à mon stress, à mon besoin de contrôle et il est peut-être moment de vous en faire part. Alors une manière d'aborder le sujet et qui était liée à ma première idée de titre qui sera peut-être le bon, c'est que je pense que j'arrive enfin à penser à moi en premier. Ce que je vous souhaite de faire. C'est un petit peu. Alors, j'avais plein de titres en tête. Il y en avait un, c'était Penser à soi. Il y en avait un, c'était Une ode à l'individualisme. et il y en a un autre, c'est J'ai compris mon stress ou j'ai compris mon besoin de contrôle. Enfin, voilà. Vous verrez ce que j'ai choisi ou ce sera peut-être autre chose. Mais ça tourne un peu autour de ces sujets-là. Je suis satisfait de voir que ça y est, j'ai enfin compris à quel point c'était important de se remettre au centre des décisions que l'on prend. Et surtout, quand je dis se mettre, c'est mettre ses points négatifs, ses fêlures au devant de nos prises de décision. Parce que avant, dans un projet, je me disais qu'est-ce qui serait le mieux, comment je peux être le plus rapide, le plus performant. Et donner quelque chose qui est le plus qualitatif, qui est le plus qualitatif. Et maintenant que je sais que ça, c'est une habitude qui est naturelle, ce que je vais d'abord mettre maintenant comme critère pour décider de ce que je fais et de comment je le fais, c'est qu'est-ce qui me mettrait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'est-ce qui me stresserait le moins ou qu'est-ce qui me ferait passer un meilleur moment en faisant la tâche. Et en faisant ça et en remettant cette question de qu'est-ce qui me convient avant celle de qu'est-ce qu'il faudrait faire, ça a répondu à énormément de stress et de sentiments de fatigue. Et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, par rapport à mon ancien logiciel, eh ben, j'ai quand même gagné parce que le fait de penser plus à moi me permet finalement de travailler un peu plus longtemps, un peu plus, sans m'en rendre compte. Et ce qui répond au logiciel actuel, c'est que bah, je vis mieux ma vie et mon travail et ma thèse en adaptant ce que je dois faire à bah, qui je suis et comment j'aime faire les choses et l'énergie que j'ai sur le moment. Donc ça se matérialise par des choix que je vous ai déjà donnés, c'est-à-dire le fait d'adapter sur le moment la tâche que je veux faire. Quasiment au jour le jour. Donc c'est très complexe parce que j'ai un grand besoin de contrôle et j'aime bien tout programmer dans une journée. Mais en même temps, j'ai vu que c'était très important de suivre son ambition, pas du tout, c'est pas du tout le mot que je voulais dire, suivre son énergie au fil de la journée. Donc j'arrive dans un même temps à être et organisé et flexible, et c'est en tout cas ce qui répond moi à mon stress, c'est-à-dire que je peux plus agir par deadline que me dire demain je fais ça. Quand il y a des deadlines, il faut que je sache et je sais le faire, justement parfois trop, me dire demain je dois faire ça absolument de 8h à 18h, ou même demain j'ai un tel rendez-vous de 10 à 12, mais prendre en compte le fait que je sois flexible et le fait que ce que je pensais être des règles immuables de ma productivité et de mon bien-être ne le sont pas et qu'il faut savoir être flexible avec soi-même aussi. C'est-à-dire qu'il y a un an, là où je pouvais dire je suis plus performant le matin, et bah aujourd'hui je peux me dire bah, je suis pas forcément plus performant tous les matins. Et donc je peux aussi me dire d'ici la semaine prochaine, il faut que j'ai fait ça, ça, ça. Je peux me réveiller un matin et me dire, ah, je le sens pas ce matin, je vais faire autre chose ou je vais aller faire du sport plutôt que prévu parce que je sais qu'après le sport, j'irai mieux. Donc, en fait, là où j'ai avancé, c'est préciser et donner des options à mes règles un peu trop rigides et connaître maintenant des choses plus flexibles et l'évolution de mon énergie et de ma motivation sur long terme. Alors, j'ai encore de l'amélioration à faire, hein, parce que je sais que je m'inquiète beaucoup et qu'il me reste encore un petit peu de vestige de travailler de 8h à 17h et que je suis fatigué forcément après 17 et que je suis forcément productif de 8 à 10, alors que bah non, c'est beaucoup plus fluctuant dans la vie et dans une journée, d'autant plus que bah, je pense que c'est le cas quand j'ai une journée qui est très, enfin des journées type et des moments où mes journées se ressemblent. Là, oui, je peux commencer à me dire, bon, c'est vrai que tous les matins de 9 à 12, je suis très performant. Mais quand les activités entrepreneuriales et même de thèse, de cours commencent à arriver, bah, on a moins cette routine qui vient et du coup, bah, l'énergie, elle est plus fluctuante. Donc oui, vu que je me lève pas tous les jours à la même heure et que bah, hier j'avais une grosse formation ou que là j'ai un trou ce week-end, et bah, mon énergie va pas être pareille de 8 à 10, de 10 à 12, etc. Donc ce qui fonctionne, c'est de me connaître davantage et de savoir que j'ai quand même besoin d'une structure. Donc de mettre des deadlines, voire même quand il y a des rendez-vous, de mettre sur mon agenda le temps de préparation à ce rendez-vous, etc., de me préparer à l'avance, tout en étant assez flexible. Et donc, c'est aussi comme ça que je crois avoir répondu à mon besoin de contrôle. Alors, je sais que ça parlera au moins à une de mes auditrices ponctuelles, qui est la copine d'un de mes auditeurs beaucoup plus récurrent. Vous vous reconnaîtrez, je n'ai pas envie de dire les noms et les prénoms cette fois parce que c'est potentiellement dommageable, mais vous vous reconnaîtrez, sinon je vous le dirai. Qui est le besoin de contrôle? Et je vais utiliser un exemple qui est pour moi un besoin de contrôle à l'extrême, qui est la surutilisation des to-do list. Là, c'est bon, je sais que vous êtes reconnu. En fait, je sais que c'est possible de plonger dans son besoin de contrôle en surutilisant des to-do list. Et c'est-à-dire en marquant exactement tout ce qu'on doit faire dans une journée, au point de mettre les choses perso, voire les choses dérisoires. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai très mal vécu. Et je pense que la nouvelle règle que je me suis ajoutée pour prendre soin de moi peut permettre de sortir un petit peu de ce truc de OK, pour mon confort, j'ai besoin de tout organiser et de commencer à faire des to-do list et aller un petit peu à l'extrême du surcontrôle. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que dans le contrôle, ça finit par être stressant de surcontrôler. Parce que on finit par remettre au conscient des choses qui sont de l'ordre de l'habitude. Ou du plaisir, et que par exemple, là où enfin, moi j'allais jusqu'à noter les moments où je mangeais, les moments où je faisais du sport et les moments où j'allais voir des amis, ces choses-là devenaient des contraintes et devenaient des choses à faire, alors que c'est des choses dont le moteur n'est pas celui de je me suis dit que je le ferais donc je le ferai, mais plutôt j'ai envie de le faire ou c'est évident que je vais le faire, comme manger ou faire du sport, mais c'est chacun sa manière de voir le sport, mais moi j'ai beaucoup travaillé pour essayer de passer de en fait j'ai envie de le faire à je dois le faire, ou c'est tellement routinier que ça sert plus à rien de le mettre dans ma to-do list. Je trouve qu'il faut quand même savoir se faire confiance et se reposer sur d'autres choses qu'une to-do list, parce que le moteur principal de la to-do list, il y en a deux, c'est la satisfaction d'avancer, de la progression, de j'ai fini ma to-do list, et le sentiment du devoir de la finir. Et moi, je pense que ces choses-là peuvent partir quand on repose sur nos habitudes qu'on a pu construire ou sur le fait que j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, je suis à fond dans un animé en ce moment et je ne vais pas, chose que j'aurais pu me dire de faire, je pense que je l'aurais fait l'année dernière d'ailleurs. Dire je vais écouter, enfin je vais voir 10 épisodes par semaine, ou allez, un par jour en mangeant, donc ça fait 7. Et bah, je sais que j'aurais pu être capable de le faire, regarder un épisode, parce que je sais que la finalité c'est que je prends du plaisir. Mais dans mon logiciel qui est, je sais, au moins partagé par une de mes auditrices et j'espère d'autres, bah, ça devient quelque chose à faire, ça devient stressant, et donc l'énergie mise déjà à l'avoir noté sur sa to-do list, mais en plus de se prendre de la charge mentale, de la lire plusieurs fois, de se préparer à faire l'action, de faire l'action et de cocher, eh ben, je trouve que ça remplace le fait que la tâche était soit habituelle, soit satisfaisante, par des objectifs potentiellement plus stressants pour des profils comme le mien, qui sont je devais le faire, je l'ai fait, je suis content. Sauf qu'on est content sur la finalité, alors qu'on aurait pu être content sur l'action elle-même. Donc c'est un petit peu les choses que je comprends mieux aujourd'hui et qui font que j'ai beaucoup moins de to-do list. Quelque chose qui me fait enlever aussi des choses sur ma to-do list, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? En fait, je m'étais mis à noter, envoyer tel mail ou répondre à ce SMS. Et en fait, la charge mentale et le temps d'écriture est quasiment similaire, voire supérieur au fait d'écrire le mail sur le moment. Donc j'enlève aussi de ma liste les choses que je peux faire directement. Je parle beaucoup de la charge mentale parce que c'est vrai que je me rends compte que quand il y a une to-do list, d'accord, on gagne du temps en organisation, mais en fait on en perd en charge mentale et en stress. En tout cas, pour les gens qui ont un profil comme moi, c'est confortant, mais si on en fait trop et que notre vie repose dessus, ça double, voire triple le poids de la tâche parce que on la lit plusieurs fois. On se stresse parce qu'on n'a pas fait à temps les tâches. On se stresse parce que des fois, on refait des to-do list parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, on réoriente. Et c'est un peu la conséquence négative, en tout cas, du surcontrôle, qui pour moi, avant, était la seule manière de faire et la plus efficace. Je me rends compte finalement que c'est triste, mais comme dans beaucoup de choses, la vérité, enfin la vérité, le plus efficace se trouve peut-être entre les deux. C'est que c'est moins coûteux en termes de temps propre et en termes d'énergie mentale de faire certains trucs stressants d'autant plus tout de suite plutôt que de l'écrire dans une to-do list et en fait se donner l'impression qu'on fait les choses alors qu'on est juste en train de procrastiner de manière organisée. Donc, par exemple, pareil, le fait de gérer mon besoin de contrôle et de gérer mon stress, ça m'amène à faire quelque chose que j'aurais pas fait l'année dernière. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, je me disais, je suis plus performant le matin, donc je dois faire des tâches coûteuses cognitivement. C'est trouvable sur Bibip, hein, je l'ai dit dans un épisode, j'étais dans cette manière de faire là. Sauf que je menais donc, par exemple, à prendre des rendez-vous visio qui me stressaient l'après-midi. Et donc, en fait, le matin, j'étais en effet plus performant, mais je stressais toute la matinée pour ma visio de l'après-midi. Ou, par exemple, il fallait que je réponde à un mail important, et ce mail me prenait la tête toute la matinée parce que je me suis dit, non, ce mail, tu y répondras le moment où tu as moins de charge cognitive, c'est-à-dire l'après-midi. Et donc, en fait, là où, par exemple, un dimanche, donc là, ça, c'était l'ancien logiciel. Maintenant, le nouveau logiciel. Le mail me stresse parce que voilà, il y a un petit enjeu, parce que je suis pas sûr de comment transmettre les choses, parce qu'il y a un petit conflit et parce que je suis un stressé de la vie, maintenant, je l'ai accepté. Eh bien, si j'y pense un dimanche, je vais l'écrire le dimanche. Là où avant j'aurais dit non, le dimanche tu dois te reposer ça tu dois le faire quand tu as peu d'énergie. Donc tu dois attendre un lundi à partir de 17h. Eh bien, en fait, si on calcule le temps effectif de la tâche, eh bien, dans la version ancienne, j'aurais écrit répondre à tel mail sur une to-do list le dimanche pour le faire le lundi. Puis j'aurais écrit le mail. Donc en temps d'action, il y aurait eu 10 minutes, on va dire, pour un mail stressant le lundi, plus 30 secondes le dimanche. Là où dans le nouveau logiciel, il y a 10 minutes d'écriture le dimanche. Donc déjà sur le temps effectif, j'ai gagné 30 secondes. Maintenant, si on rajoute la charge mentale, entre le moment où je me dis, ah, j'ai reçu ce mail, il me stresse, et j'y réponds le dimanche, il y a 10 minutes plus les 30 secondes de stress et de lecture du mail. Par contre, si je fais une to-do list, que je lis une première fois le mail, je le mets sur ma to-do list, puis je me lève le lundi matin, je relis ma to-do list, ça me refait stresser. Donc ça me prend de la charge de stress. Ça me fait potentiellement baisser en productivité de ma tâche du matin parce que je vais y revenir plusieurs fois à penser au mail que je vais vouloir faire. Puis ensuite, je finis le lundi à 17h d'écrire mon mail. Eh bah, ben, j'ai perdu de la productivité le lundi matin et du temps de charge cognitive. Et donc, en fait, c'est beaucoup moins efficace d'être trop dans le contrôle en passant notamment par des to-do list et d'avoir des règles trop rigides. Et ça, je pense que enfin, ça doit, c'est l'évolution de l'année qui n'est pas sans investissement, hein. Vous savez que ça, c'est plutôt l'aboutissement d'une thérapie. Et de beaucoup de travail et d'exposition et de réflexion dans ce podcast que une lumière qui m'est venue aujourd'hui. Donc ça fait partie du travail d'un an de développement personnel qui est bien plus enfin, tout aussi important en fait que le travail physique, enfin j'allais dire physique, mais le réel travail que j'ai fait en termes d'entrepreneuriat et de thèse. C'est une évolution qui a été super dure à comprendre au bout d'un an. Mais voilà, je voulais vous donner un exemple précis pour comprendre à quel point le contrôle n'est pas forcément la meilleure manière de faire et que en plus, on peut jouer avec nous-mêmes et se dire que on contrôle notre propre besoin de contrôle et donc les profils comme moi peuvent arriver à se trouver un petit artifice psychologique pour se détourner l'attention et se dire que c'est une meilleure manière enfin, lâcher prise sur son contrôle est une meilleure manière de contrôler son besoin de contrôle. Voilà, je vous laisse reculer pour cette phrase. Mais bah en fait, on peut se sentir même plus efficace, plus efficient à lâcher prise, chose qui peut être totalement contraire à mon logiciel de départ, qui est bah non, la meilleure manière de faire, c'est tout organiser, etc. Enfin voilà, je pense que l'exercice, enfin l'exemple, pardon, est assez parlant de lui-même. Pareil. Par rapport aux besoins de contrôle, il y a quelque chose qui peut être ajouté. Donc, ça va mieux en étant plus flexible, en lâchant prise et en faisant les choses surtout au moment où ça nous stresse pour les lâcher. Mais aussi, j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier qui est que j'aime autant contrôler que le stress d'être dans un inconfort. Et ça, c'est particulier. C'est quelque chose que j'ai compris de moi, qui était comme deux muscles d'un même bras qui permettent de faire deux mouvements antagonistes, mais qui sont importants pour la fonction du bras ou du membre. Et bah en fait, je suis un membre à deux mouvements, et donc il faut deux muscles. C'est celui de se rendre compte que bah, j'aime autant. Me reposer sur quelque chose de maîtrisé, que l'excitation de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est quelque chose que j'ai construit, l'excitation et l'envie de sortir de ma zone de confort. Le problème, et je pense que c'est même la source de mon burn-out. Oula, je pensais pas aller si deep aujourd'hui, mais enfin de mon burn-out, de ma phase, de ma mauvaise phase là que je vous ai transmis. Écoutez l'épisode 0 de la saison 4 si ça ne vous dit rien. Et eh ben en fait, c'est que j'aime autant, en fait, j'aime me mettre dans la merde, mais ce qui me stresse, c'est ne pas avoir le contrôle. Donc en fait, j'avais un comportement totalement autodestructeur. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif, il est ni d'enlever mon besoin et mon envie de me mettre dans la merde, ni mon besoin et mon envie de contrôler et d'avoir un environnement maîtrisé, mais plutôt de savoir dans quelle situation. C'est utile, important, intéressant d'activer l'un ou l'autre muscle de ce même membre qui est mon bien-être. J'espère que vous comprenez la métaphore, sinon vous allez être perdu, mais c'est parce que je me suis vraiment dit, bah, ces deux muscles antagonistes, comme un biceps et un triceps. Le biceps fait que le bras se plie et le triceps fait que le bras se déplie. Et donc, j'imagine que mon bien-être a autant besoin de stress finalement, c'est-à-dire d'inconfort et d'expérience, que de maîtrise et de confort et d'expérience. Et donc, ces deux choses qui semblent et qui sont plutôt contradictoires me permettent finalement de bah, moi de voyager dans cet univers qu'on appelle la vie et d'essayer d'être plutôt satisfait. Et c'est le fait de mal gérer ces deux muscles qui faisait que pour moi, j'ai eu un souci de stress et que je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux par une plus grande maîtrise de ces deux choses-là. Et j'ai un exemple qui est que quand Je suis allé donc aux États-Unis cette semaine, la semaine dernière, et c'est un exemple tout bête, mais il y a eu un choix. J'y suis allé avec mon frère. Il y a eu un choix sur est-ce qu'on prend une voiture ou pas. Un conseil en passant, si vous allez aux États-Unis, notamment à Orlando en Floride, je vous conseille de prendre une voiture, ce qu'on a finalement fait. Il y a eu un choix qui était cornélien, mais qui peut vous paraître nul. C'était celui de prendre une voiture. Ou pas, et surtout qui l'a conduit. Et j'ai réfléchi pendant 10 minutes sur qui l'a conduit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon frère? Et en fait, là, j'ai compris que c'était les deux muscles qui étaient en confrontation et qui faisaient que je ne bougeais pas, qui étaient immobilisés. Quand on contracte tous les muscles du bras, il se plie pas et il se déplie pas. Et donc, j'étais comme ça, réellement, avec le muscle du contrôle qui disait ça va te stresser, ça va peut-être gâcher ton voyage, et le muscle de la découverte, de la curiosité qui disait oui, mais quand même l'expérience de conduire dans les voitures et puis le stress, tu vas apprendre à l'apprivoiser, c'est quand même important, etc. Et j'ai pas su décider pendant au moins 5-10 minutes à me prendre la tête sur des détails. Et ce qui est venu, une décision que j'aurais pas prise avant que je me rende compte que j'avais besoin de contrôle, et ben je me suis dit non, vas-y, c'est toi, mon frère, qui va prendre la voiture parce que je sais que ça va me stresser. Et là, ça en vaut pas la peine. Et en fait, c'est une case qui s'est enfin ouverte dans ma tête de me dire, bah, je suis pas obligé de me mettre dans la merde à chaque fois. Et avant, j'utilisais toujours le muscle qui allait vers l'aventure, l'excitation et le stress. Mais maintenant que je sais que l'absence de contrôle me stresse et donc le contrôle me donne du confort, et bah, la décision a été de, dans ce cas-là, me donner du confort. Par une nouvelle règle qui est venue, qui est que le besoin d'aventure et de sortir de sa zone de confort doit être fait pour les bonnes occasions, tout simplement, et si nécessaire. Et donc, c'est une règle qui m'est venue en tête un autre moment, en fait, résonne pas mal avec ces deux volontés de à la fois avoir besoin de contrôle et à la fois avoir un besoin d'ouverture et de sortir de sa zone de confort. C'est que maintenant, je pense que ma décision entre non, ça, je vais me mettre dans un environnement que je connais, et OK, ça, je vais me mettre dans un environnement incertain, eh ben, ça va dépendre du côté est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Et en me donnant ça en tête, eh ben, ça m'aide beaucoup. Ça me donne une belle idée de comment je vais pouvoir prendre des décisions. Et donc, par exemple, là, la voiture, je me dis, je serai en vacances. C'est pas le moment de me prendre la tête et de faire une expérience stressante. Surtout qu'il y en a déjà des expériences stressantes dans un voyage, hein. Parfois rien que le fait de partir. Eh bien non, là, je décide de me mettre dans une situation de contrôle. Voilà, à partir de cette règle-là, de besoin de contrôle si nécessaire, eh ben, ça me permet d'avoir du contrôle sur mon besoin de contrôle. Et je pense que ce sera ça finalement le titre de l'épisode. Parce que je me projette très bien, même professionnellement, de me dire, OK, j'ai une formation sur tel sujet. Qu'est-ce qui est nécessaire ou utile ou vraiment satisfaisant de sortir de ma zone de confort et en quoi ça n'a pas de sens. Là où avant, tout ce qui me sortait de ma zone de confort, je l'acceptais alors que c'est quelque chose qui me stresse, et bah demain, je pourrais me dire, par exemple, si je dois former sur un nouveau sujet, ça va me stresser que ce soit nouveau, mais ça m'apporte beaucoup quand même parce que je vais réapprendre des choses, je vais reconstruire, etc. Par contre, si par exemple l'incertitude allait plus sur le côté logistique, c'est-à-dire le temps est super serré, ou alors je vais devoir me déplacer super loin, le lendemain j'ai une visio, je vais la faire n'importe où, et bah là j'ai besoin de contrôle et j'ai besoin de confort, et je vais choisir le confort pour ces choses-là. Donc en fait, je suis plus précis sur mes décisions de confort vs contrôle. Et c'est ce qui me permet d'être plus juste et propre sur la gestion de mon propre stress. Le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est celui de que j'ai commencé à dire, mais cette fois, je vais vous donner des exemples sur le dernier point, qui est de se placer devant les autres critères possibles de la prise de décision. Là où avant, je me disais quel est le plus urgent, quel est le plus important, mais maintenant, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je veux faire aussi aujourd'hui. Et le critère que je me donne aussi maintenant, c'est moi en premier, c'est-à-dire prendre soin de moi en premier. J'ai un premier exemple qui est actuel, qui est quasiment au moment où j'écris, où j'enregistre ce podcast, qui est que par exemple, un client m'a demandé de faire un point un peu plus précis sur des analyses que je voulais faire, etc. Et donc, qui avait besoin de que je lui montre un petit peu plus précisément ce que je comptais faire comme analyse. Et j'étais à deux doigts de rentrer de vacances, de me prendre le décalage horaire et de, donc c'est sur la base d'entretien, de retranscrire tous les entretiens et de faire des analyses poussées pour ce point-là. Et je me suis dit, j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps, c'est-à-dire je n'ai pas le temps sans me fatiguer à outrance et me taper un rush de 3 jours. Donc je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. J'avais prévu des jours off que j'aurais déjà pas, mais donc je vais faire un entre-deux. Donc là où avant j'aurais mis la qualité de ma prestation avant tout, là j'ai mis avant tout la gestion de mon énergie. Et je me suis dit, sur 35 entretiens, et ben en fait, je peux déjà faire des pré-analyses sur 10 entretiens, sachant que ça n'enlève quasiment rien à la qualité de ma prestation. Ça, par contre, c'est juste mon perfectionnisme à 2 balles qui allait se réveiller. Parce que, en fait, ce sont des pré-analyses. C'est juste pour donner un avant-goût d'à quoi ça va ressembler et qu'il n'y a aucun problème. Enfin, ça change dans un très faible pourcentage de mon point de vue de dire, eh ben, je vous ai fait un petit exemple d'analyse à quoi ça va ressembler sur tous les entretiens ou sur 10 entretiens. À part que les gens se diraient, ah, il est vraiment chaud, il s'est réveillé. Eh bah non, je m'assois sur ce petit gain de pertinence pour me dire, bah en fait c'est une demande qui a été faite au dernier moment. Moi enfin c'est pas une demande qui a été faite, c'est moi qui ai ressenti le besoin de le faire. Et puis j'ai largement mes explications de pourquoi j'ai pas pu être disponible. Hein. J'ai été clair aussi sur tout le reste de ma disponibilité. Ça n'apporte quasiment rien de faire 3 fois plus de travail, alors que ça va beaucoup me fatiguer. Donc là où avant j'aurais dit le mieux c'est de faire ça, donc je le fais. Maintenant je dis quelle est l'énergie que j'ai et en quoi les besoins des clients peuvent s'adapter à mes besoins. Et en fait, bah, je suis passé de me dire je vais faire tous les entretiens, chose que j'aurais fait l'année dernière, à bon en fait je vais juste leur faire un exemple sur 10 entretiens. C'est quelque chose que je peux beaucoup plus simplement faire. Et voilà, je vais me sentir bien en plus tout le long parce que je ne me donne pas un objectif qui est trop impossible et je vais pouvoir me remettre au décalage horaire des États-Unis petit à petit. Donc ça, c'est un exemple précis de me mettre moi et mon énergie avant ce que j'aurais fait avant, avant mon perfectionnisme. Il y a autre chose que j'ai appliqué même pendant les vacances, qui était pareil. Avant, c'était la question, c'est quoi les meilleures vacances? Du perfectionnisme. Donc en fait, c'est un peu comment ce podcast, c'est un peu comment contrôler son contrôle et son perfectionnisme. Et bah là où avant j'aurais dit c'est quoi les meilleures vacances au détriment de mon confort ou ma santé mentale. Et bah là c'est et grâce j'avoue à mon frère. Maintenant vous savez que je suis parti avec mon frère. C'est de me dire mais qu'est-ce qui est important pour moi? En plus de qu'est-ce que je dois faire pendant ces vacances pour me dire que j'ai fait tout ce qui était possible en allant aux États-Unis. Et en fait, ça m'a amené à aller à la salle de sport tous les matins. Et donc là, encore une fois, mon logiciel d'il y a 1 an aurait dit, et j'avoue qu'il se bataille encore dans ma tête, hein, il aurait dit, mais avec tout le temps que tu as eu aux États-Unis, tu as perdu tous les matins 1 heure et demie pour faire ton sport. Eh bien, aujourd'hui, le nouveau logiciel dit, mais c'est trop cool. Bon, déjà, pour le coup, c'est trop cool culturellement d'aller dans une sport aux États-Unis parce que c'est vraiment différent. Et donc, en fait, on profite aussi des États-Unis et des gens qui sont dans ces environnements. Donc, c'est pas non plus gâcher un moment. Mais en plus, eh ben, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. C'est quelque chose qui a fait que en rentrant, j'ai le sentiment de ne pas faire n'importe quoi, ce qui est le cas sportivement et au niveau nutritif. Donc, ancien logiciel aurait dit, tu dois manger tous les hamburgers et tous les hot dogs possibles pour vraiment profiter des États-Unis. Nouveau logiciel, j'ai besoin pour ma santé mentale de me sentir bien dans mon corps. Aussi de bien manger pour ma santé mentale, parce que bien manger égale bien dormir, égale se sentir bien. Donc, je vais me faire quelques extras, mais globalement, je vais essayer de bien manger aux États-Unis. Et bah, du coup, je me vois pas du tout avoir eu l'impression de tronquer mon bien-être personnel, mental et physique pour des vacances, chose que j'aurais eu l'année dernière. Mais là, de réussir à trouver cet entre-deux de qu'est-ce qui est important pour moi et en quoi je peux kiffer. Et je trouve que cette recette fonctionne mieux, en tout cas, elle fonctionne mieux pour moi actuellement en ce moment. Donc, de un, c'est pas dit que ça continue longtemps. Ça se trouve, je vous dirai dans 6 mois que j'ai encore mal compris quelque chose et qu'aujourd'hui, c'est ça la nouvelle manière de penser qui fonctionne pour moi. Et en plus, ça fonctionne pour moi. Mais bon, le podcast sert à ça. Et donc, le fait de se mettre en avant son bien-être personnel, en avant de son perfectionnisme, c'est le troisième élément, on va dire, qui me permet d'être plus à l'aise aujourd'hui dans ma vie. Mon bien-être personnel aussi à distance, ça a été, enfin à distance, je veux dire en vacances, où vous savez qu'il y a une semaine, il n'y a pas longtemps, où j'ai travaillé à distance. C'est aussi de dire, bah oui, j'ai besoin de mon sport, mais par exemple, quand j'ai bougé pour travailler, et bah, je suis allé chez un ami et je lui ai dit, là aujourd'hui, il faut vraiment que je finisse ça pour me sentir bien, pour ensuite, si on veut, faire sortir ou faire quelque chose. Et donc, je me rends plus compte de ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin, et de le faire avant tout pour ça, plutôt que de le faire par perfectionnisme. Et voilà, ça c'est vraiment la grande avancée de cette année que je vous partage et que j'espère qu'il pourra vous parler et vous apporter un petit peu d'aide si vous êtes comme moi et que vous avez du stress, notamment géré par du besoin de contrôle et du perfectionnisme. Ça parlera pas peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je suis assez content de pouvoir vous transmettre ça. J'espère que c'était clair parce que je continue à faire des podcasts de manière très peu préparée. Donc, je suis moins prêt sur les exemples, etc. Là, j'ai pris quand même quelques notes, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Pour vous résumer, globalement, j'ai compris trois nouvelles règles, en tout cas appliquées, et en tout cas, c'est les trois qui sont les plus importantes. Je dis ça parce que j'en ai sorti 25 il y a 4 mois, donc ça se trouve, ça se recoupe. Mais aujourd'hui, si je devais retenir trois règles j'allais dire qui me rendent heureux, ça me fait bizarre de le dire, mais potentiellement, en tout cas, qui me déstressent. Règle numéro 1, ne pas programmer quelque chose qui est habituel ou qui est plaisant. Règle numéro 2, ne pas reporter à plus tard des choses qui sont rapides et ou stressantes. Et si c'est rapide et stressant, notamment pour moi, les mails ou les appels, c'est d'autant plus pertinent de le faire dès maintenant parce qu'on va perdre de l'énergie à le reporter, à y penser et à stresser pour le faire plus tard. Et règle numéro 3, placer soi-même ses besoins, ses envies, ses préférences, son énergie en haut des critères de prise de décision pour des tâches personnelles ou professionnelles. Et règle numéro 4 que j'ai failli oublier, se mettre dans l'inconfort ou dans le confort si nécessaire, et donc en gros choisir sa bataille, c'est-à-dire que choisir les moments où on souhaite sortir de sa zone de confort parce que ça nous excite et que c'est important, et les moments où on va se mettre dans notre zone de confort pour des sujets qui en valent la peine, soit pour nous, soit par rapport à l'énergie qu'on a généralement. Voilà pour ces quatre règles. J'espère qu'elles ont été claires, que c'était pertinent et utile pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.